À chaque équipe nationale ou à chaque conseil national, nous invitons un intervenant qui vient sur une thématique donc, qui a été discutée au bureau national qui prépare ces rencontres pour la deuxième fois, puisqu'il était déjà intervenu il y a 2 ans, je crois, à l'Université nationale. Nous accueillons donc le père Jacques Trublet, qui est jésuite, bibliste. La thématique, nous l'avons demandé, c'est donc autour de la parole. Alors, pour nous, il y a deux registres. D'abord, le débat que nous aurons demain matin, et qui occupera une grande partie de la matinée sur la parole du MCC. C'est une question qui est remontée fortement dans les retours que nous avons reçus. Et donc nous avons pensé qu'il fallait la prendre un peu à bras le corps. Donc demain, on y reviendra. Et puis aussi la place de la parole de Dieu dans nos équipes, dans la vie d'équipe. Comment est-ce que nous nous y référons? Comment est-ce que nous l'écoutons? La pratique de chemin d'Emmaüs nous invite à le faire d'une certaine manière. Voilà. Et donc nous avons demandé donc à quelqu'un qui depuis très longtemps travaille sur la parole de Dieu de nous présenter cela. Alors je remercie Jacques Trublet parce qu'il a une journée chargée, puisqu'il a passé la journée à un cycle de formation pour les accompagnateurs spirituels qui est organisé au Centre Sèvres sur 2 années. Alors je mets ça dans l'oreille parce qu'il n'y a pas que c'est pour les Parisiens. Il pourrait y avoir des accompagnateurs spirituels des régions limitrophes de Paris ou que le TGV rend possible de venir à Paris pour une journée. Donc c'est le samedi, une fois par mois, je crois.
Même pas, il y a 5 séances par année.
5 séances par année. Donc deux fois 5 séances sur 2 ans. Une formation avec des aspects bibliques, anthropologiques, spirituels pour former des accompagnateurs spirituels en particulier d'équipe. Donc c'est une proposition qui peut être utilisée pour le MCC. Je crois qu'on ne l'a pas encore fait, mais on peut y songer. Par ailleurs, à son palmarès, entre autres choses, donc Jacques Trublet s'est beaucoup occupé de formation de fiancés, de jeunes couples, et puis il a enseigné pendant 10 années, je crois, l'éthique à l'école de gendarmerie de Melun. Donc vous voyez, donc c'est un parcours assez différent. Voilà, merci Jacques d'avoir accepté d'intervenir pour nous aujourd'hui.
De ton accueil. Bien, donc dans un premier temps, j'avais compris que vous vouliez que je fasse une réflexion sur la parole, ce que j'aurais pu faire éventuellement, mais heureusement que les choses se sont précisées pour dire que, en fin de compte, la question qu'on me demandait de traiter, c'était un peu comment dans vos groupes, dans vos réunions de MCC, il y a de la parole qui circule entre vous, et à un moment donné, vous faites circuler une autre parole qu'on peut appeler la parole de Dieu. Alors, mon propos, si vous voulez, ça va être de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire de lire la parole de Dieu à travers des questions extrêmement techniques que vous abordez dans vos groupes, je n'en doute pas, surtout par les temps qui courent. Hein. Et puis tout d'un coup, on a une espèce d'aérolithe qui arrive, qui est la parole de Dieu, et qui risque quelquefois, pour certains, d'être un peu plaqué sur des problèmes très techniques, très concrets, et qui arrive comme ça, ou dans d'autres cas, de ne vouloir rien dire du tout, enfin de ne pas être performant par certains côtés. Alors je vais essayer de vous présenter ce problème-là à travers un certain nombre de présupposés pour que ça, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, au fond. Vous voyez, c'est un petit peu ça mon propos. Alors, la définition de ce que je pourrais dire tient dans un paragraphe de Dei Verbum où on dit en gros qu'il est conseillé à tout le monde, les prêtres, bien entendu, les clercs, mais aussi les fidèles, c'est dans la constitution des Verbum, de fréquenter les divines écritures, la science éminente du Christ, En effet, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Donc, importance de se rapporter à l'Écriture. Alors, quel est le fondement? Au fond, la question que je pose, c'est au nom de quoi nous ouvrons les Écritures dans une réunion MCC? Et on pourrait très bien se contenter simplement de notre propre parole. Pourquoi il faut qu'il y ait une autre parole qui arrive en surplomb? Eh bien, le fondement de ce que nous faisons est assez, je vais le rappeler de manière un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est assez simple. C'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, le terme n'y est pas, mais la réalité s'y trouve, il y a un concept d'intégrateur qui fait qu'entre nous et ceux qui ont écrit ces textes ou qui les ont vécus, il y a une espèce de continuité de permanence. C'est-à-dire que, pour faire bref, ce qu'on appelle le concept de personnalité corporative, qui est un peu un terme anglais, mais qui est difficile à traduire en français, fait que vous appartenez à un corps, à un groupe, ce groupe qu'on peut appeler les chrétiens, et ces chrétiens forment une entité qui se rattache de manière tout à fait presque biologique à une entité antérieure qu'on appelle le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parenté entre ce qui est arrivé à nos ancêtres dans la foi, et qu'on peut appeler nos... Par exemple, ça peut commencer avec les patriarches, si on prend les dates les plus hautes, ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Nous sommes en quelque sorte parents de ces gens-là, biologiquement leurs descendants. Il y a une très belle formule dans une encyclique, je crois que c'est Léon XIII, nous sommes spirituellement des sémites. Mais je dirais qu'on est plus que spirituellement, et on est presque charnellement rattachés à ce peuple qui nous précède. Alors, ce concept de personnalité corporative, si vous voulez, est relativement important parce qu'il permet d'embrasser d'un seul regard toutes les générations, c'est-à-dire que par certains côtés, entre nous et Adam, ou entre nous et Abraham, il y a un certain nombre de générations qui se sont passées, et nous sommes en lien avec ces générations-là, même si elles sont très lointaines, comme nous sommes en lien avec le futur, c'est-à-dire l'avenue du Messie. Pour les Juifs, il n'est pas encore venu, pour nous il est venu, mais il n'a pas encore pleinement accompli ce pourquoi il était venu. Et il y a une espèce de tension, si vous voulez, entre nos ancêtres et puis ceux qui viendront après nous. C'est une entité très réelle, ce n'est pas du tout une figure littéraire ou quelque chose d'un peu évaporé, c'est vraiment quelque chose de très incarné. Alors, les conséquences que ça peut avoir, c'est de se dire, mais nos ancêtres qui ont vécu un certain nombre d'événements, je suis concerné par ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que ça m'atteint encore aujourd'hui, et par certains côtés, je dois faire mienne cette parole qui est consignée dans la Bible. Mais tout de suite, il y a une question qui arrive, et qui n'est pas simple. Par exemple, si vous prenez un texte d'Amos dans vos réunions, vous allez vous dire, enfin, entre nous, Amos, il s'adresse à des gens du 8e siècle avant Jésus-Christ, il ne s'adresse pas à moi aujourd'hui dans la conjoncture où je me trouve. Ce qui n'a l'air de rien, mais il va falloir en quelque sorte se dire, mais en quoi ce texte me concerne-t-il alors qu'il est adressé à d'autres? D'ailleurs, c'est stipulé dans la Bible en général, les oracles prophétiques. Amos s'adressa à un tel, ou s'adressa en telle circonstance au peuple, et aujourd'hui encore, nous lisons ces textes avec un certain recul. Donc, par certains côtés, le présupposé de notre lecture de la Bible, c'est que ce qui est arrivé à une partie d'entre nous, de ce peuple auquel nous appartenons, en lien avec le peuple d'Israël, à un moment donne de son histoire, nous concerne vitalement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est vital. Pour prendre une comparaison, j'espère que vous n'en voudrez pas de prendre celle-là, pour montrer cette comparaison, je dirais qu'il faut assumer notre histoire, comme disait François Mitterrand lorsqu'il a reçu le pape, à la fois, il a dit la France, c'est à la fois le baptême de Clovis et la révolution de 89. Eh bien, je dirais que nous sommes, nous aussi, à la fois dans le sillage du Christ, et en même temps, nous nous rapportons à ce qui antécède le Christ, ce peuple dans lequel il est né. Alors, à partir de là, il peut se passer pas mal de choses dans notre histoire, si nous considérons que nous sommes vitalement, biologiquement, reliés à tout ce peuple qui nous précède, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le présupposé qui me semble très important, parce qu'on pourrait se dire, mais après tout, c'est un truc qui ne me concerne pas, ça concerne d'autres. En fin de compte, il y a un lien comme généalogique entre moi et ceux qui m'ont précédé, comme il y a un lien généalogique entre moi aujourd'hui et ceux qui viendront après moi. On est très sensible à ça aujourd'hui. La manière dont nous laissons la planète en l'état aujourd'hui aura des incidences pour ceux qui viendront après nous. Eh bien, je dirais, la transmission de ce texte qui nous vient de plus loin que nous-mêmes, il sera aussi transmis à d'autres générations. Troisième point, quels sont les lieux et les moments de cette actualisation? Où est-ce que ça se fait dans la Bible? Eh bien, le principal lieu d'actualisation de l'Écriture dans la Bible se fait dans le culte. Vous n'en serez pas surpris. C'est-à-dire que le culte est le lieu où on rappelle les actes historiques de Dieu dans l'histoire et en même temps, d'une certaine façon, où on les actualise, c'est-à-dire on leur donne la force d'être encore actifs aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on, dans la liturgie, nous lisons des textes bibliques, ce n'est pas simplement pour évoquer une histoire ancienne qui ne nous concernerait pas, c'est de faire encore agir le principe actif qui est présent dans ce texte et en quelque sorte de nous l'approprier pour que nous aussi, nous participions à l'événement qui est raconté. Je ne raconte pas des événements uniquement pour en faire mémoire, pour les mémorialiser, mais pour les mémorialiser, c'est-à-dire qu'ils deviennent puissance d'action pour moi aujourd'hui. Alors, je vous cite un texte d'un grand théologien allemand qui s'appelle Gerhard von Rad, une des plus grandes figures de la Bible au XXe siècle en Allemagne. Je vous rappelle, entre parenthèses, que von Rad, que c'est peut-être la première fois que vous entendez ce nom-là, peut-être la dernière fois, mais Gerhard von Rad était un brillant théologien en Allemagne, à Heidelberg, et il fait son mémoire de maîtrise en 1934-35, en théologie systématique. Il était destiné à faire de la théologie fondamentale ou systématique. Et voyant la montée du nazisme, von Rad a complètement changé d'orientation. Il s'est dit non, je change complètement de cap, je quitte la théologie pour faire de la Bible, et surtout de l'Ancien Testament, pour rappeler la pertinence de l'Ancien Testament dans les temps qui courent. C'est ce qu'on appelle un engagement intellectuel. Et von Rad s'est montré, je ne sais pas ce que ça aurait donné dans d'autres domaines, mais dans le domaine de la Bible, ça a été génial. On a eu beaucoup de chance, on n'a pas dû le perdre. Alors voici ce qu'il écrit. Les actes historiques par lesquels le Seigneur, Yahvé, fonda sa communauté étaient absolus. Ils étaient présents pour chaque génération ultérieure, et pas seulement en ce sens que le passé reprenait vie par une actualisation intellectuelle. Par le mime, par le rite, la communauté en fait réalisait vraiment l'Israël au plein sens du mot. Elle entrait elle-même en fait et en vérité dans la situation historique que rappelait chaque fête. Quand Israël mangeait la Pâque en vêtements de voyage, le bâton à la main, les souliers aux pieds dans la hâte du départ, eh bien, il est clair qu'il faisait plus que de se souvenir de la sortie d'Égypte. Il entrait lui-même dans l'événement salutaire de cette sortie. Il rendait cet événement actuel pour lui, et il en va de même du séjour des huttes au désert, etc. Donc von Rad a très bien compris, si vous voulez, que la liturgie est le lieu, pas simplement d'une écoute de la parole, mais d'une revitalisation, d'une réactualisation de ce qui s'est passé. Vous avez une très belle, dans le célèbre Pascal juif, d'ailleurs la veillée Pascal juif qui se fête en famille, vous avez au début du repas quelqu'un qui dit à l'assemblée une phrase qui est tirée de la un peu du droit canon juif qui date du 1er siècle avant, du 1er siècle après, avant de célébrer la Pâque, voici ce qu'on dit. De génération en génération, Tout homme a le devoir de se considérer comme étant personnellement sorti d'Égypte. Car il est écrit, tu transmettras cet enseignement à ton fils en ce jour-là. Donc, vous ne pouvez pas célébrer la Pâque si vous-même, vous ne vous considérez pas comme ayant été en Égypte et en étant sorti par la puissance de Dieu. L'objet par excellence de l'actualisation, vous vous en doutez, ce sont les événements fondateurs. C'est-à-dire, l'événement fondateur d'Israël, c'est l'Exode, c'est-à-dire le moment où Dieu a rassemblé un peuple d'esclaves pour en faire un peuple d'hommes libres. De même que pour nous, l'événement fondateur, c'est la résurrection du Christ, ce moment, si vous voulez, où toutes les formes d'esclavage très profondes, l'esclavage de notre propre liberté, sont anéanties dans la mort et la résurrection du Christ. C'est de cela dont nous faisons mémoire. Alors, l'actualisation va s'embrayer là-dessus, c'est-à-dire la première condition, je dirais, pour lire la Bible, c'est de se sentir concerné par ce qui est arrivé à nos anciens. C'est-à-dire nous sommes un peu dans la même situation. Je pense à propos de la célébration pascale, vous avez dans un livre qui s'appelle 1018, qui est la prise du ghetto de Varsovie par les Allemands, où les Juifs sont réfugiés dans les égouts de Varsovie, et ça tombe le jour de la Pâque, l'assaut de la ville. Eh bien, ils disent, ben voilà, nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, aujourd'hui nous sommes esclaves d'un autre Pharaon, mais nous allons quand même célébrer la Pâque, nous souvenir que nous avons été esclaves et que nous avons été libérés. On voit très très bien cette espèce de continuité. Et il y a une force, si vous voulez, dans la célébration, que quelquefois, je dirais, on ne le sent pas très bien dans nos propres célébrations, parce que, justement, il n'y a pas suffisamment de mise en route d'actualisation à travers ce que nous entendons. On ne peut pas tous les jours, je dirais, vivre ça de manière aussi intense. Mais si vous prenez la liturgie catholique, il y a un mot qui revient très souvent dans la liturgie des grandes fêtes, c'est « Odie Christus natusa », je le dis en latin, parce qu'en français c'est moins beau, « Aujourd'hui le Christ est né, aujourd'hui le Christ est ressuscité ». Nous disons « aujourd'hui », ce n'est pas hier. Donc c'est encore aujourd'hui qu'il se passe quelque chose. Alors, on va actualiser en quelque sorte cette parole de Dieu ou ces événements qui se sont passés dans le Nouveau Testament en faisant miroiter ensemble, une espèce de jeu de miroir, entre des figures qu'on va trouver dans l'Ancien Testament et des figures qu'on va trouver dans le Nouveau Testament. Par exemple, on va mettre en relation l'arche de Noé avec le baptême par lequel les chrétiens sont passés. C'est-à-dire qu'en fait, une façon de récupérer l'Ancien Testament dans le Nouveau, c'est de mettre en corrélation, en correspondance, en harmonique, une scène de l'Ancien Testament et une scène du Nouveau, pour justement montrer comment le type est quand même inférieur à l'antitype, c'est-à-dire que la figure est inférieure à la réalité, l'ombre par rapport à la lumière, pour prendre des images du Nouveau Testament, mais on va jouer continuellement sur cette symbolique. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le Nouveau Testament. Vous avez un autre exemple que Paul va manier à fond dans l'Épître aux Romains, c'est le parallèle qu'il va établir entre Adam et le Christ. Par un seul homme nous est venu la mort et le péché, par un seul homme nous est venu le salut et la vie. Donc Romains 5, toute l'Épître aux Romains est construite sur cette espèce d'ambivalence, de rapport entre Adam et le Christ. Alors on fera la même chose à propos de l'Exode, de Moïse, de Josué, enfin d'un certain nombre de figures, qui permettent justement de dire, mais finalement, qui est le Christ? Qui est le Christ? Alors, Luther a une très bonne formule, il dit, si tu veux connaître Jésus, tu lis les évangiles, si tu veux savoir qui est le Christ, tu lis l'Ancien Testament. Parce que justement, le Christ est en quelque sorte la composante, un peu comme un petit miroir, si vous voulez, un petit diamant, qui reflète. Vous regardez d'un côté, il y a un éclat, de l'autre côté, il y a un autre éclat, etc. Le Christ est cette espèce de figure, de synthèse de toutes les figures de l'Ancien Testament. Il y a à la fois du Moïse, il y a du Josué, il y a de l'Abraham, il y a de l'Adam, etc. Je veux dire, le Christ assume en quelque sorte toutes les figures qui le précèdent. Alors, dans l'Ancien Testament, vous allez avoir également des éléments d'actualisation et qui vont revenir. Alors je voudrais maintenant, après vous avoir dit que c'était surtout dans la liturgie que se faisait cette actualisation, je dirais que peut-être un des lieux privilégiés de l'actualisation d'un certain nombre de paroles de l'Écriture se font à l'occasion d'une expérience personnelle ou d'un événement. Et là, je pense que ça va rejoindre les questions que vous vous posez. Vous pouvez réciter pendant des décennies le Notre Père. Et, bon, ça vous touche sans plus. L'expression Père, vous en aimeriez peut-être une autre, bon, de considérer autrement comme Père. Le jour où, par hasard, vous expérimentez ce que c'est que la paternité ou la maternité, ah, le mot Père résonne autrement en vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de cercle herméneutique, comme on dit, mais il y a quelque chose qui tourne en rond. À la fois, il faut avoir fait l'expérience de ce dont parle l'Écriture, et l'Écriture, en même temps, nous amène à faire l'expérience de ce que nous lisons. Mais il n'y a pas de commencement, c'est un cercle qui est bouclé sur lui-même. Et il y a des paroles de l'Écriture, si vous voulez, qui ont marqué un certain nombre de personnes dans l'histoire, parce que tout d'un coup, ils ont réalisé ce que voulait dire cette parole. Alors, on pourrait trouver dans chaque vie de saint une parole qui les a marqués de manière décisive dans leur existence. Bon, François-Xavier, qui rêvait en quelque sorte d'être un maître à Paris, bon, découvre tout d'un coup, à la suite du Père Ignace, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre sa vie. Traduire le mot « âme » ici par « sa vie ». Et à cause de ça, je dirais, François-Xavier va aller aux limites du monde, se défoncer, si je puis dire, pour annoncer cette parole qu'il a découverte, en sachant que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre sa vie, c'est-à-dire si c'est pour rien. Quoi. Charles de Foucault, « Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits », ça a été le mobile de toute la vie de Charles de Foucault. On pourrait trouver pour tous les saints, si vous voulez, une phrase comme ça qui a marqué très profondément. Bien, dans le Nouveau Testament, vous avez un certain nombre d'exemples comme ça. Par exemple, Saint Jean, lorsqu'il regarde le Christ en croix, qu'il assiste à la croix du Christ, et on vient pour voir s'ils sont bien morts, et au lieu de briser les jambes, comme on fait aux deux autres condamnés, pour Jésus, on donne le coup de lance dans le cœur, si vous voulez, pour complètement achever le condamné. Et tout d'un coup, Saint Jean comprend une parole qu'il ne savait pas à quoi elle servait. Pourquoi on mange l'agneau pascal sans briser aucun de ses os? C'était dans le rituel. Il ne fallait pas briser les os de l'agneau pascal. Il fallait manger les os complètement entiers. Bon, on ne mangeait pas les os. Hein. Mais il fallait absolument le cuire sans toucher aux os. Tout d'un coup, il se dit, en voyant cette scène-là, ben oui, je comprends pourquoi, dans l'Ancien Testament, on m'avait dit qu'il ne faut pas que l'agneau pascal, il ait un os brisé, parce que le Christ est le nouvel agneau, etc. Vous voyez, une espèce de connivence entre des événements et des paroles qui se rencontrent. Bon, vous ne serez pas surpris de voir que, peut-être, l'élément essentiel de l'actualisation va surtout porter autour de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, le mystère pascal du Christ, le mystère de sa mort et de sa résurrection, n'est pas simplement un élément nouveau dans la foi des chrétiens, ça devient en quelque sorte la clé d'interprétation de toute la Bible. C'est-à-dire qu'à travers cet événement qui est arrivé, qui est l'ordre de la mort et de la résurrection, eh bien, ça va servir de clé pour comprendre toute l'Écriture. Vous allez retrouver définitivement cette affaire-là. Alors, on va avoir une nouvelle interprétation de l'Ancien Testament, bien entendu, avec cette clé, c'est-à-dire que tout est possible de réinterpréter. Enfin, le texte, en quelque sorte, n'a pas perdu de sa vigueur, ni de son actualité, mais à condition qu'il soit relu, revu, à travers cet événement pascal du Christ. Ce n'est pas une interprétation parmi d'autres. Vous savez, dans la littérature juive talmudique, on n'arrête pas de dire « Rabbi un tel a dit, Rabbi un tel a dit, Rabbi un tel a dit, puis encore un autre a dit ». Il y avait six opinions sur le même sujet. Bon, dans le Nouveau Testament n'est pas une opinion parmi d'autres, elle est en quelque sorte une clé pour nous, dans la foi, décisive d'interprétation de cette Écriture. Alors, pourquoi c'est une clé décisive d'interprétation de l'Écriture ? Parce que ce qui précède la lecture de l'Écriture, c'est la foi. La lecture de l'Écriture peut conduire à la foi dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est dans la foi que je lis ces Écritures et d'une certaine façon que je comprends en quoi le Christ est la clé des Écritures. Mais je dirais qu'il ne faut pas avoir une lecture linéaire des choses en montrant, si vous discutez avec un juif, vous allez vous faire ramasser, hein, et de dire tout l'Ancien Testament converge vers le Christ. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez le dire que dans la foi en disant « Moi, à partir de la résurrection, à la suite des apôtres et des disciples, effectivement, il y a une radicale nouveauté qui est advenue dans cet événement-là, et je relis autrement l'histoire d'Israël, qui est ma propre histoire, ou l'histoire du Christ. Mais il y a d'abord l'acte de foi dans la résurrection du Christ qui amène à une autre lecture, mais ce n'est pas une lecture linéaire, on irait de l'anse d'Abraham jusqu'à Jésus de manière absolument évidente. Ce n'est pas du tout évident, puisqu'il y a une autre lecture qui existe, qui est celle des Juifs, pour qui justement le Christ n'est pas le point de compréhension de l'Ancien Testament. Alors, je vais un petit peu passer les choses ici, qui sont moins importantes, qui sont un peu comment ça se passe dans le Nouveau Testament, et j'arrive à ma conclusion de ce point. Vous allez voir que ça peut être intéressant pour nous. En fait, les auteurs du Nouveau Testament étaient devant une difficulté presque insurmontable. Presque insurmontable. Moi, pour moi, le plus grand miracle du Nouveau Testament, c'est ce que je vais vous raconter. Et qui n'est pas raconté, justement, mais qui a été effectué. Quand il vous arrive un événement agréable ou désagréable, la naissance d'un enfant, la perte d'un parent, d'un enfant, c'est un événement important pour vous, absolument singulier, et personne d'autre ne peut en quelque sorte dire bah, « je te comprends, il m'est arrivé le même truc ». Parce que, effectivement, c'est notre réaction spontanée devant quelqu'un à qui il arrive un mauvais événement, de dire bah, « tu sais, moi, il m'est arrivé la même chose l'an dernier ». C'est faux. Ce qui m'est arrivé est absolument singulier, ce qui vous arrive est absolument singulier, et vous n'avez pas le droit de lui dire ben, « j'ai vécu la même chose ». Ah, ce qui est commun, c'est le langage, qui est un piège, évidemment, puisque nous employons les mêmes mots pour désigner des expériences radicalement différentes, et d'une certaine façon, on est piégé par le langage. Dire « j'ai perdu mon père, j'ai perdu un enfant », n'importe qui peut le dire, mais le poids d'expérience et de singularité qu'il y a dans cette expérience est fonction, bien entendu, de la relation qu'on pouvait avoir à cette personne, ou même de l'affectivité propre à cette personne. Mais il n'y a pas d'homogénéisation entre des expériences qui sont radicalement différentes d'une personne à l'autre. Il n'y a qu'un seul cas où vous ne pouvez pas faire le coup de dire à quelqu'un « comme je te comprends, j'ai vécu la même chose », c'est quand quelqu'un est en train de mourir. Quand quelqu'un est en train de mourir, vous ne pouvez pas lui dire ben, « je te comprends, il m'est arrivé le même truc l'an dernier, j'ai failli mourir. J'ai failli, c'est très différent que je suis en train de mourir. » Et qu'est-ce qu'on fait dans la plupart des cas ? Eh bien, on se tire. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a plus de langage pour parler, on n'est plus habilité en quelque sorte, et on n'arrive plus à parler. Mais, en fait, quand il m'arrive un événement heureux ou malheureux, j'ai du matériau pour en parler, j'ai du langage que je peux utiliser, qui est communicable. Bon, approximatif, hein, puisque, d'ailleurs, souvent, moi je suis frappé avec les fiancés, quand ils essaient de vous raconter un peu ce qui leur est arrivé ou ce qu'ils veulent vivre, il n'y a aucun mot qui marche dans la langue pour raconter ce qu'ils ont envie de vous raconter. Ils disent, bah oui, c'est ça sans être ça, vous voyez. On n'a pas, le mot ne correspond pas à la réalité, on sent bien le décalage. Mais il y a du matériau pour en parler, voilà. Et on arrive, par approximation successive, à dire à peu près ce qu'on a envie de dire. Bien, pour le Nouveau Testament, ils étaient devant un problème beaucoup plus difficile que ça. C'est que ce qui leur était arrivé n'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que quelqu'un traverse la mort et qu'on dise qu'après la mort, Alors, je vais employer évidemment des mots tout à fait approximatifs. Il est vivant, il est ressuscité, il s'est éveillé des morts, il était couché, il est debout. Mais je ne peux utiliser que des figures, hein, je ne peux utiliser que des symboles pour dire cette réalité. Et bien, ce qui a été génial dans le Nouveau Testament, c'est qu'en quelque sorte, ils ont réussi, en quelque sorte, à dire l'expérience qu'ils avaient vécue à travers toute une polyphonie de mots qu'on pourrait trouver, ou d'expériences qu'on trouve dans l'Ancien Testament, et ils ont balbutié ce que sont les récits de la résurrection. C'est-à-dire, voilà, il est advenu quelque chose à Jésus après sa mort, le moment X où ça s'est passé, personne n'y a assisté, mais en quelque sorte, on peut parler de l'exode du Christ, de sa Pâque, de sa glorification, du don de l'Esprit, et puis aussi de son exode. Il y a une vingtaine d'expressions dans le Nouveau Testament qui visent un peu cet événement que nous appelons souvent la résurrection, mais ce serait un petit peu paralyser les choses que de réduire à ça. Je vous ai parlé de polyphonie, mais on peut parler aussi de prisme. Vous savez, quand vous mettez une lumière blanche sur un prisme, il y a des physiciens parmi vous, j'espère, hein, quand vous mettez une lumière blanche sur un prisme, il y a une diffraction après, et que vous ne voyez pas quand vous regardez de la lumière blanche, il faut le prisme. Bien, l'événement christique de la résurrection, c'est ce prisme à travers lequel passe l'Ancien Testament, et tout d'un coup on aperçoit des colorations, des connotations qu'on n'avait jamais vues avant, parce que justement il y a un élément déclencheur et qui transforme complètement ce qu'on voyait habituellement. Quatrième point, comment... dans la tradition, je vais quand même évoquer un petit peu la tradition, on a poursuivi ce qui est déjà commencé dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ils ont déjà fait un pas de s'approprier un peu tous les textes de l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Alors, les pères de l'Église et les médiévaux ont inventé une théorie de lecture de la Bible qui est à deux niveaux, c'est-à-dire il y a ce que le texte raconte, la lettre, et puis il y a ce que ce texte évoque. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un texte qui est écrit avec des mots, des phrases, puis en même temps, il faut accéder à ce à quoi renvoie ce texte, c'est-à-dire ce qu'il peut évoquer. Et, alors à travers cette double lecture de la Bible, Nouveau et Ancien Testament, ils vont en quelque sorte être amenés à deux lectures de la Bible. La première lecture de la Bible, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens littéral du texte. Alors qu'est-ce que c'est que le sens littéral? Il ne faut pas faire d'erreur. C'est pas du tout simplement la grammaire ou les mots du texte, c'est aussi l'histoire qui est racontée. La grammaire ou la forme du texte, c'est pas évident. Je prends simplement un exemple comme ça que j'ai ramassé en préparant ça. Mais vous avez, par exemple, dans l'évangile de Marc, il est dit que, et de Luc, l'homme ne doit pas répudier sa femme, etc. Et Matthieu ajoute, il ne doit pas répudier sa femme pour motif de porneia. Alors, porneia, je vais mieux vous dire qu'il y a plus de 500 articles ou extraits de livres qui traitent du problème, de savoir ce que c'est. Parce que l'entrée du dictionnaire grec donne deux acceptions au moins du terme. Premièrement, la fornication, l'inconduite sexuelle, l'adultère. Et deuxième sens, l'union illégitime. Eh bien, allez voir dans Matthieu s'il s'agit de l'adultère ou de l'union illégitime. Il ne le dit pas. Et je dirais qu'on continuera à écrire indéfiniment là-dessus. Donc le sens littéral n'est pas quelque chose d'évident. Il y a des textes sur lesquels vous pouvez ramer, justement, pour essayer. On ne trouvera jamais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Vous avez un autre point, peut-être, qui a été aussi important que celui-là, parce que celui-là n'est pas neutre. Hein. Mais une phrase qui est dans saint Paul, et qui est une phrase importante sur la conception du péché originel, où en grec, il y a une expression qui peut être à la fois un relatif ou une conjonction, c'est-à-dire que en Adam, tous ont péché, ou bien parce que tous ont péché, ou étant rempli le fait que tous ont péché, bon, Saint Jérôme lui a compris que c'était en Adam que nous étions tous pécheurs, et au contraire, aujourd'hui, connaissant mieux toutes les sources grecques, on sait qu'ici on a une conjonction qui voudrait dire, bien, nous avons tous péché parce que en Adam, mais pas, c'est pas Adam qui a commis une faute dont on épongerait en quelque sorte les retombées, mais nous sommes en Adam pécheurs, c'est-à-dire que Adam récapitule tout le péché du monde. Et d'ailleurs, la Tob a traduit d'une manière assez amusante ce passage-là. Elle traduit « d'ailleurs, tous ont péché ». En grec, c'est « étant rempli le fait que tous ont péché ». Mais saint Jérôme avait traduit « en qui, en Adam, en qui tous ont péché ». Donc il y a des difficultés quand même grammaticales, sérieuses. Non. Mais le deuxième sens du sens littéral, c'est le contenu historique du texte. Ça, on l'oublie très souvent, c'est-à-dire que ce qui est raconté pour les pères de l'Église ou les médiévaux n'est pas mis en question. C'est-à-dire qu'en gros, comme quand j'étais enfant, si vous voulez, c'est parole biblique, hein, c'est vérité biblique. C'est-à-dire que l'Exode s'est passé exactement comme il est raconté, l'histoire de Joseph également, et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas à mettre en question quoi que ce soit. Tout ce qui est dit correspond à ce qui fut. Donc, on ne met pas en question la chose. Ça, c'est le premier sens, qu'on appelle littéral, mais sous lequel il faut mettre grammatical et historique. Deuxième sens, allégorique. Alors, allégorique, au sens étymologique du mot, ça signifie, une fois que vous avez dit ça, là, que vous avez traduit le texte correctement, et que vous avez raconté l'histoire qui est derrière, il y a encore un autre sens, allégorique, c'est dire encore autre chose. Hein, ça veut dire encore autre chose. Alors, se dire encore autre chose, c'est un terme qui va se triphaser, si je puis dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir ben, finalement qu'est-ce que ce texte dit de Dieu ou des relations de Dieu et de l'homme, ce qu'on pourrait appeler la théologie du texte. Un deuxième sens qui dérive toujours du sens allégorique, c'est, vous, ça vous intéressera, c'est-à-dire comment je peux m'approprier aujourd'hui dans ma vie ce texte-là. C'est généralement à la fin des sermons, vous savez, vous avez toujours la descente, la finale, l'atterrissage. On vous dit, mes frères, ce texte vous concerne aujourd'hui, etc., dans cet état de crise où nous sommes. Voilà comment il faut le prendre. Puis un troisième sens, ce texte-là dit quelque chose sur notre histoire finale, sur la fin, et d'une certaine façon, c'est aussi important, vous êtes très content d'entendre le mot espérance, dans vos élucubrations de souvenirs, parce que justement, on oublie très très souvent que si vous voulez, l'écriture n'est pas totalement définitivement accomplie, ça ne sera qu'accomplie à la fin des temps, et la fin des temps reflue en quelque sorte sur le présent. C'est-à-dire que l'avenir, l'espérance dont vous parlez là tout à l'heure, je dirais, c'est quelque chose qui est à la fois devant nous, mais qui reflue sur l'actualité pour la transformer. Je vous prends un petit exemple. En matière de, soit en matière sociale, soit en matière, disons, de, vous voyez, simplement de vie entre les gens qui soient une vie humaine, quoi. Bon, on a beau expurger la misère indéfiniment, il y en a toujours. Normalement, ça devrait nous décourager. Enfin, tous les efforts qu'on fait d'année en année, il en reste encore autant à faire. Le chrétien est quand même l'homme de l'espérance, celui qui croit qu'un jour, quand même, l'avènement du Christ a transformé profondément la donne, c'est-à-dire qu'il y a un irréversible qui a été posé. Un jour, il y aura une victoire décisive sur les forces du mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras et dire, on attend que ça vienne, puisqu'on nous a dit que ça viendrait. L'espérance est mobilisatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a encore du mal, et que j'attends des cieux nouveaux et une terre nouvelle, comme on dit dans la Bible, m'invite à travailler à la transformation de ce monde pour qu'il vienne terre nouvelle et cieux nouveaux. Mais ce n'est pas simplement d'attendre quelque chose qui va venir. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens eschatologique ou anagogique. Bon, il y a des termes techniques. Vous retrouverez ça dans le papier que je remettrai à votre secrétaire. Alors, notre situation aujourd'hui, elle est très différente du Moyen-Âge ou des pères de l'Église, parce que même avec Luther, c'est-à-dire au moment de la Réforme, il n'y avait pas cette cassure entre le texte, ce qu'il dit, et ce qui fut. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout en question l'historicité de ce qui est raconté dans la Bible. On n'a pas du tout en question. Il n'y a qu'une chose sur laquelle on pose question depuis le Moyen-Âge, qui est quand même un peu fort de café, c'est que dans le Deutéronome, Moïse raconte sa mort. On peut fantasmer là-dessus, hein, comme d'autres. Mais il y a une petite phrase dans le Deutéronome, quand même, qui peut difficilement être de Moïse, parce qu'on dit que tout le Pentateuque est de Moïse. Mais des rabbins médiévaux, et Spinoza surtout, va dire, écoutez, qui raconte sa mort, bon, concello, hein, j'accepte qu'il raconte sa mort. Mais qui disent que jusqu'à ce jour, on n'a jamais su où était son tombeau, alors là, non, là, j'accepte pas ça. Donc, on acceptait en gros que tout le Pentateuque soit de Moïse, sauf ce verset. Et on mettait en question l'historicité de l'affaire. Mais c'est qu'après la Réforme, au XVIIe siècle, il va y avoir une césure complète en disant, mais ce que nous raconte la Bible est quand même sujet à caution. C'est-à-dire que la mer Rouge, ils en ont peut-être mis une louche, bon, l'âge des patriarches quand même, je sais bien qu'aujourd'hui on y revient, hein. On y va. Bon. Mais enfin, l'âge des patriarches, 150 ans, engendré à 100 ans, tout ça. On commence à poser des questions sur l'historicité de l'Ancien Testament, sur même la vérité historique. Moi, j'ai un peu travaillé ça, c'est un sujet qui m'intéressait. Josué qui arrête le soleil, mon Dieu, il n'aurait pas dû. Mais ça nous a valu quand même des trucs, parce que à la Renaissance, comme au Moyen-Âge, on croit fermement ce que dit la Bible. C'est-à-dire que c'est pas être borné, mais comme on n'a pas d'autres sources de science, ben, on dit que Josué a arrêté le soleil, donc on croit au géocentrisme, c'est-à-dire c'est la Terre qui est au centre et le soleil tourne autour. Jusqu'au moment où quelqu'un commence à dire « c'est peut-être qu'une hypothèse », puis on va finir par prouver que c'est plus qu'une hypothèse, c'est une réalité. La Terre n'est pas au centre, elle tourne autour. Alors on avait des tas de bonnes raisons théologiques de mettre la Terre au centre, puisque le Christ est venu sur la Terre, etc. Donc on met en question ce qui est raconté à partir du XVIIe siècle surtout, et puis ça va faire empirer jusque dans les temps modernes, et beaucoup de gens vont commencer à dire que vous me racontez des carabistouilles, il suffit qu'il y en ait deux ou trois pour que tout le reste soit remis en question. Alors, aujourd'hui, je dirais, il y a une césure qui s'est opérée entre ce qu'on pourrait appeler l'exégèse et la théologie. Vous auriez dit ça au père de l'Église ou au médiévaux, même au XVIe siècle, t'es théologien ou t'es exégète? Vous auriez dit, mais t'es zombie, quoi. Hein? C'est-à-dire que pour eux, ils ne distinguaient pas du tout les deux fonctions. Mais il y a une cassure qui s'effectue, où l'exégète va devenir spécialiste dans le texte et dans l'histoire, et puis le théologien dans l'interprétation. Une espèce de coupure. Et ça, je dirais, ça a été très grave pour la suite des opérations, car la Bible est devenue, pour certains, un objet scientifique, et pour d'autres, un objet théologique, et ça ne s'est pas encore réconcilié avec Vatican II, à mon avis. On est encore dans le flou à ce niveau-là. Un exégète peut être théologien, et un théologien peut être exégète. Mais en même temps, il y a des performances, enfin, il y a des acquisitions pour faire de l'exégèse, il faut quand même des bases dans les langues et tous ces trucs-là, ou dans l'histoire. On ne peut pas demander aux théologiens de tout étudier. Vous avez des gens assez complets quand même. Alors donc, il y a un petit problème dans cette cassure, vous la vivez, et je dirais qu'en gros, pour arriver un peu à une conclusion négative, beaucoup de travaux d'exégèse ont déçu profondément au XXe siècle. À la fois, il y a eu un engouement formidable dans les années 50, dans le renouveau biblique, et puis une très grande déception en disant, mais j'avais entendu un magnifique sermon sur Amos, j'ai été acheter un bouquin à la procure sur Amos, oh ben je ne suis pas allé pour rien, qu'est-ce que j'ai appris? Bon, la vie économique à l'époque d'Amos, la conjoncture politique à son époque. J'ai appris un certain nombre de mots qui faisaient difficulté dans le texte. Bref, ça ne m'a pas nourri spirituellement. Et du coup, l'exégèse était un petit peu... un prof de Jérusalem qui avait intitulé un de ses articles qui soulignait ce problème en disant, il avait intitulé son article de manière astucieuse, « Exégèse en Sorbonne, exégèse en Église ». L'exégèse en Sorbonne, si vous voulez, c'est la Wissenschaft, hein, la science, quelque chose de très scientifique. Puis en Église, alors là, on fait du dogme, etc., où on fait des choses un petit peu... on ne remet pas trop en question le texte, et les vases communicants entre les deux sont encore difficiles aujourd'hui. Donc, beaucoup de littérature que vous pourriez acheter en matière de Bible risque de vous décevoir parce qu'elles sont surtout du côté du sens littéral et théologiquement. Il y a eu des belles choses produites au point de vue théologique, mais l'articulation des deux n'est pas encore entièrement satisfaisante. Donc il y a une distorsion entre les deux. Alors j'en viens à la conclusion, c'est comment dans ce contexte-là, vous, eh bien, dans un groupe, vous lisez l'écriture, qu'est-ce qui peut fonctionner, enfin, comment ça peut nourrir un petit peu votre réflexion et vous stimuler. Alors, tout ce que j'ai dit qui précède est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter simplement de prendre une Bible en faisant comme s'il n'y avait pas un certain nombre d'études qui ont été faites là-dessus. Enfin, disons, les notes d'une bonne Bible peuvent servir de base à la réflexion. Hein. Il n'y a pas besoin forcément d'acheter des gros bouquins. Alors, finalement, ce qui vous intéresse, vous, c'est quand même comment, dans la foi, parce que la plupart d'entre vous, quand même, vous êtes croyants, cette parole peut avoir une certaine performance dans votre existence. Bon, vous le croyez, mais comment ça marche? Alors, il faut se rappeler quand même un principe très simple qui est évoqué très souvent par les pères de l'Église et les théologiens, et qui est le suivant. Je cite un auteur qui s'appelle Guillaume de Saint-Thierry, dans une lettre aux frères du Mont-Dieu. C'est l'Esprit qui a donné naissance aux Écritures, qui doit être à l'œuvre chez celui qui veut le comprendre. C'est dans ce même Esprit qu'elle demande à être lue. On dit que les Écritures sont à la fois œuvre humaine et œuvre divine, c'est humano-divin, c'est-à-dire que l'écriture est à la fois parole de Dieu et parole d'homme. Hein, il y a les deux. Et vous ne pouvez pas faire une dialyse. Hein, vous ne pouvez pas, comme l'âme et le corps, vous ne pouvez absolument pas trouver la partie de l'âme qui sera en nous. C'est comme vous cherchez le cœur d'un oignon. Hein, à force de plaire l'oignon, il n'y a plus rien à la fin. Eh bien, ici, c'est dans l'Esprit Saint que nous faisons cette lecture, parce que ce texte est aussi le produit de l'Esprit-Saint et pas seulement une parole humaine. Donc de considérer que Dieu s'adresse à moi à travers ce texte. D'autre part, l'Écriture n'est pas la parole de Dieu. Hein, je crois qu'on fait une erreur très souvent de dire l'Écriture c'est la parole de Dieu. Non, la parole, même Vatican II vous dit... L'écriture sainte, la Bible, est une locutio dei, c'est-à-dire une expression de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une expression que Dieu a choisie pour nous parler. Mais elle n'est pas équivalente à la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est Dieu qui nous parle, mais comme on ne parle pas sans médium, hein, il y a besoin d'un micro, il y a besoin d'une voix, il y a besoin éventuellement d'éléments électroniques pour que la parole puisse se porter, eh bien, la parole, c'est Dieu qui me parle, mais à travers un médium qui est, entre autres, l'Écriture. Mais il peut me parler aussi ailleurs que dans l'Écriture. C'est pour ça que, dans vos rencontres à MCC, lorsque vous échangez sur vos problèmes ou des questions que vous vous posez dans la vie professionnelle, c'est la même parole, peut-être, de Dieu qui va circuler selon deux modalités différentes, à la fois ce que vous avez vécu à travers un certain nombre d'événements ou de signes que vous avez reçus, vous allez échanger cela entre vous, et c'est déjà de la parole de Dieu qui circule sous une certaine modalité. Et à un moment donné, une autre parole à travers un autre médium, qui est la Bible, va également circuler entre vous. Mais la parole de Dieu est au-delà, si vous voulez, du médium qui la traverse. Même chez Luther, j'ai relu des textes de Luther à ce propos-là, pour lui, la parole de Dieu n'est pas la Bible. C'est important de dire ça. Alors moi, il y a un geste dans la liturgie qui me fout en colère à chaque fois que je le vois, à la fin de la proclamation de l'évangile. Alors qu'on emmène l'évangile en procession, avec encens et tout, on respecte le support, hein, parce que c'est ça, on va la proclamer. Mais une fois qu'elle est proclamée, qu'on dit « acclamons la parole de Dieu », la parole de Dieu, c'est pas le bouquin, et donc il faut pas le lever. S'il y a des diables parmi vous, surtout ne faites plus ça. C'est interdit par la rubrique dit qu'il faut pas le faire. Dans le temps, on le faisait, mais maintenant, c'est le truc, hein. Mais la rubrique dit qu'il faut pas le faire, parce que la parole de Dieu, c'est celle que nous avons entendue, c'est-à-dire parole proclamée et parole entendue. Vous avez un jeu de mots en allemand qu'on peut pas faire en français, et que les Allemands aiment beaucoup jouer sur ce jeu de mots. La parole en allemand, c'est Wort. La Wort Gottes et l'Anwort Mannes, c'est-à-dire la parole de Dieu et la réponse de l'homme. Ce qui fait la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la parole que Dieu nous adresse, c'est la réponse que l'homme fait à cette parole. Vous avez un magnifique commentaire de Dietrich Bonhoeffer sur ce sujet, je vais bientôt avoir terminé. Dietrich Bonhoeffer sur ce sujet, il dit « Mais dans la Bible, je suis surpris, on dit qu'elle est parole de Dieu ». Parce que, sous certains aspects, on peut dire qu'elle est parole de Dieu, mais il y a beaucoup de paroles humaines dans la Bible. Le Cantique des Cantiques, c'est une parole humaine, quand même. Les psaumes, c'est des paroles humaines, peut-être adressées à Dieu, mais pas toujours. Alors Bonhoeffer dit, ah, si la Bible contient non seulement la parole que Dieu nous adresse, mais la réponse ou la parole que les hommes adressent à Dieu, c'est que la parole de Dieu est à la fois la parole que Dieu nous adresse et la réponse que l'homme fait à cette parole. Donc, vous voyez, il y a une espèce de circularité un petit peu entre les deux. Alors, avant de prendre un texte dans un groupe, je vous donne quelques petits conseils pour terminer. Faites confiance à la parole de Dieu. N'allez pas forcément chercher un texte qui parlera de ce dont vous avez parlé. Hein? D'ailleurs, si vous allez à la pêche, vous risquez de faire ce qu'on appelle de la récupération et du plaquage. Bon, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, vous allez asservir le texte à votre démonstration ou à ce que vous voulez démontrer. Donc, laissez la parole surgir et croyez-moi, si l'esprit est présent à votre groupe, vous allez détecter des choses que peut-être, qui sont présentes dans le texte, mais qui tout d'un coup vont avoir une pertinence par rapport à ce dont vous êtes en train de parler, que vous ne soupçonnez pas. Je vous donne un exemple. La parole du bon samaritain, je l'ai souvent commentée en sermon, et on commente souvent, c'est le samaritain quand même, quel personnage central, figure du Christ, bon. Le blessé, on en parle peu. On parle du Lévite des prêtres, bon, pour dire, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un type dont on ne parle jamais dans la parabole, c'est l'hôtelier. Or, l'hôtelier, c'est quelqu'un qui se fait payer pour les services qu'il rend. Hein, et le samaritain qui apporte le blessé chez l'hôtelier, il lui dit, s'il y a quelque chose à payer, s'il y a un supplément, je viendrai te le régler. Ça veut dire que le bon samaritain, il a fait son boulot, il a ramassé un blessé sur la route, mais maintenant il y a un problème de compétence dans les soins qui ne relève plus de lui. Alors il va chez celui qui est compétent dans le domaine, qui est l'hôtelier en l'occurrence ici, et qui donnera ses soins en les donnant. Eh bien j'ai entendu un jour cette interprétation-là, évidemment, par des gens qui étaient dans le monde hospitalier, en disant, ben oui, nous on se fait payer pour soigner les gens. Mais bien entendu, moi j'avais jamais pensé à l'hôtelier de la parole, si bien quand je prêchais au gendarme, parce que j'étais aumônier de la gendarmerie, je prenais souvent la parabole du bon samaritain, et je travaillais évidemment sur la figure de l'hôtelier qui se fait payer pour le boulot qu'il fait. Voilà, donc faites confiance à l'écriture. Deuxièmement, je vous laisserai un texte qu'on pourra éventuellement vous diffuser, qui est un texte de Kierkegaard, où Kierkegaard, de manière extrêmement protestante et vigoureuse, dit ceci, il faut lire l'écriture, s'y regarder comme dans un miroir. L'écriture est un miroir qui vous renvoie beaucoup plus de questions que de réponses à vos questions. Souvent nous cherchons des réponses dans la Bible, la Bible au contraire vous pose des questions. Kierkegaard dit ça admirablement. Deuxièmement, de dire c'est à moi qu'elle s'adresse donc et qu'il s'agit. Ensuite, la garder en tête et puis, ma foi, une fois qu'on l'a gardée, il va se passer des choses, elle va agir. Alors, à propos de l'exégèse scientifique, il dit, mais supposons qu'un fiancé reçoive de sa fiancée une lettre qui est écrite dans une langue qu'il ne connaît pas. Son premier boulot, ça va prendre de dire, je vais apprendre la langue dans laquelle elle m'écrit pour pouvoir lire la lettre. Il va prendre un dictionnaire et éventuellement une grammaire, et le peu qu'il va comprendre va suffire à le combler. Donc, vous voyez, l'exégèse scientifique, faites-en un peu, mais enfin, ce n'est pas forcément votre tasse de thé. Alors, je dirais que l'échange en groupe de nos différentes expériences, de nos différentes, rôles dans notre situation, ce que nous avons vécu, nos différentes expériences, vont projeter sur le texte une lumière, et je dirais que dans un groupe, si ça fonctionne bien, c'est la pluralité de ces interprétations, il n'y en a pas qu'une, qui va en quelque sorte faire monter, comme on ferait monter une mayonnaise, tout d'un coup le texte va prendre corps à travers tout ce que vous projetez d'expérience dessus, et c'est ça qui construit la communauté. Alors, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter à ce propos-là. C'est un exercice qui est relativement simple, mais difficile à accomplir. D'abord, bien écouter la parole, et ensuite, bien interagir dessus, échanger sur ce que nous avons lu dans ce texte. Et évidemment, nous ne lisons pas la même chose. Une femme ne lit pas la même chose qu'un homme dans un texte. Il n'y a pas moyen, mais c'est intéressant. Non, mais je vous dis ça parce qu'à une époque, il n'y avait pas de femmes à faire de théologie, il y avait des hommes. Bon, donc, on avait des travaux sur un certain style. Une fois que les femmes se sont mises à faire de la théologie, c'est devenu intéressant. Parce qu'on avait justement des points de vue auxquels les hommes sont absolument insensibles. Ils ne sont pas allergiques, mais ils sont insensibles à ça. Donc, pluralité, à la fois par le sexe, pluralité par les situations, mariés, pas mariés, et puis, je dirais, dans vos différentes entreprises qui sont extrêmement différentes dans le boulot que vous faites, le banquier n'aura pas la même vision des choses que celui qui dirige une PME, vous voyez. Donc, c'est intéressant, ça, de mettre en commun nos affaires, laisser parler le texte dans sa pluralité. Bien sûr, tout ça, ça se fait à l'intérieur d'une tradition que l'on reçoit, mais ce sera un autre topo de vous montrer le rapport écriture et église. Mais commencez au moins par ça. Voilà. Et il y a peut-être le temps de quelques questions quand même. Vous parlez bien fort.
Il n'en demeure pas moins qu'il y a des récits de l'Évangile qui, lus à bout de tour et sa bout de tour, sont vraiment difficiles en eux-mêmes. Alors je fais allusion, par exemple, à Saint Marc, avec le fameux épisode du Christ et de la Syro-Pénicienne, histoire des petits chiens, etc. Laisser diffuser la parole dans un groupe à partir de cette lecture-là, sans un petit peu d'exégèse, ça me paraît difficile.
Alors, ça va, là, on entend. Alors, ça pose le problème, si vous voulez, si c'est une parole humaine, la Bible, elle est datée. Elle est conjoncturelle, elle est liée à un espace-temps qui fait que, par exemple, ce qui est dit sur « femmes, soyez soumises à vos maris », on ne peut plus entendre ça maintenant dans les mariages, c'est clair. Donc il y a des choses qui sont datées parce que c'est de la parole humaine. Alors, il ne faut pas les sauver à tout prix ou vouloir les prendre à tout prix. Mais c'est vrai que l'affaire avec la Syro-Phénicienne, quoique les chiens ici sont plutôt sympathiques, vous savez que dans la Bible, tous les chiens sémitiques sont des chiens méchants, sauf un. Chien de Toby, mais c'est un chien grec. Alors là, ici, les petits chiens, c'est très marrant, ça, parce qu'on a pris une image qui habituellement est négative. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, dans un groupe qui ne serait pas initié suffisamment au monde socio-culturel dans lequel le texte est arrivé, je crois qu'il faut renoncer. Alors, tous les textes ne sont pas forcément à lire en public. Dans la liturgie ne vous impose pas de lire le Lévitique. Il y a quelques passages du Lévitique qu'on lit, mais très peu, parce que justement c'est un peu c'est trop lié à une situation. Par contre, techniquement, c'est très important de connaître le Lévitique pour comprendre l'Épître aux Hébreux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est tout texte n'est pas. Il faut savoir en mettre au frigidaire un certain nombre qui ne peuvent plus être actualisés sans une très grande performance exégétique ou pas mal de commentaires autour. Mais il en reste encore pas mal après. N'hésitez pas.
J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le fait de ne pas forcément choisir un texte en rapport avec ce qu'on a échangé, mais d'accepter de prendre un texte comme ça, un peu au hasard. Moi, je ne suis pas très habitué à ce genre de choses, mais je trouve que la manière dont vous en parlez, que ça peut laisser surgir quelque chose qui nous emmène plus loin, c'est pas mal, c'est intéressant. Il ne faut peut-être pas en faire aussi, parce que c'est dans certains groupes, on prend une parole au hasard et on en fait la révélation de l'Esprit Saint, peut-être pas aller trop vite en faisant, je ne sais pas.
Oui, je connais l'histoire. Le type qui veut se fendre, et puis il ouvre la Bible à n'importe quelle page et c'est marqué « Repends-toi ». Oui, alors, je prends un exemple que j'ai vécu récemment. J'ai dû faire une conférence sur le logement. Sur le logement auquel je ne connaissais pas grand chose, qui est un problème assez compliqué, et on me demandait de partir de la ville. Alors j'ai vraiment sondé toute la ville, de manière assez précise. Bon, j'ai trouvé quand même trois ou quatre textes très intéressants sur le sujet, bon, et qui m'ont permis un peu d'étoffer les affaires. Mais bien entendu, pour une question comme le logement, je peux très bien aller chercher d'autres sémantiques que le logement qui vont permettre justement de parler d'accès. Par exemple, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de choses, mais ce qui est dit est de première qualité. On dit que le logement est comme l'eau et le pain. C'est mis dans la série eau, pain, logement. Ah, ça, c'est quand même intéressant. Vous voyez, tout d'un coup, j'ai une phrase qui me dit quelque chose. Mais je n'ai pas beaucoup d'autres choses. Sur la ville, par contre, j'ai de quoi faire un topo de 2 heures. Mais sur les questions qui sont les vôtres, concrètement dans vos professions, vous ne trouverez rien. Par contre, vous trouverez des choses sur l'amour du prochain, sur la solidarité, sur l'échange, enfin, un certain nombre d'affaires. Mais ne cherchez pas l'échelle des salaires. Si vous êtes RH, par exemple, je suis sûr que ça puisse beaucoup vous éclairer.
Et alors, l'ouvrier l'a dit.
Comment ?
L'ouvrier l'a dit.
Oui, alors il y a des trucs, c'est intéressant parce que les textes sur lesquels vous risquez de buter, c'est quand même scandaleux quand même, le gars qui gagne. Non, mais je veux dire, c'est mettre le SMIC à 4000 euros quoi. Bon, donc il y a des choses. Alors il faut toujours se dire que quand il s'agit d'une parabole, on est quelquefois dans un langage qui n'est pas le langage réel, hein, c'est un langage parabolique, c'est pour faire comprendre une réalité, mais bien entendu, et avec un petit côté choquant. Mais moi, le truc qui me choque le plus dans ces Luc 16, le type qui va être foutu dehors, qui va être licencié, bon, et qui convoque, ça c'est génial, il convoque tous les créanciers de son patron, il réduit la facture de moitié. Bon. C'est quand même pas mal. Et on nous dit après, le Seigneur, probablement qu'ici c'est Jésus, enfin il y a une ambiguïté grammaticale, enfin, ici ça peut être Jésus, qui loua l'astuce de ce. Pour dire que les enfants de ce monde sont quand même vraiment plus astucieux que les fils de lumière. Bon, c'est quand même intéressant de voir ça.
La difficulté de cet exercice, quand on le pratique, c'est qu'effectivement, il y a une pluralité de paroles. Ça, c'est très vrai. Mais le problème, c'est, à la fin de la réflexion, comment arriver à à ce qu'il en sorte quelque chose. Parce qu'une fois que la pluralité de parole, les uns et les autres se demandent vers quoi aller. Surtout quand, comme ça nous arrive dans nos équipes parfois, nous n'avons plus d'accompagnateur. Donc c'est,
ouais. C'est alors, vous savez, l'accompagnateur, bon, il a fait un peu de théologie, mais il ne sera pas forcément dans un grand secours.
Hein. Ah, mais
non, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui connaisse très bien le tout. Non, moi, ce que j'ai assisté à votre exercice à préliminaire, avant la conférence, ce qui est intéressant, bon, vous êtes mis en groupe. Vous voyez, ce qui est sorti du chapeau, c'est quand même énorme. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, que la revue dans le temps ne s'applique pas pour ça.
Mais ça fait un jour, hein.
D'accord. D'accord, tu vois, je n'ai pas perdu le... Donc, vous voyez, cette espèce de... En fait, ce qui se passe dans la lecture de l'écriture, c'est du même ordre. Il sort des choses qui sont assez hétéroclites, comme dans un concile, vous savez, c'est exactement la même chose, très hétéroclites. Et demain, comme par enchantement, il va y avoir des lignes qui vont se dégager, mais qui ne se seraient pas dégagées s'il n'y avait pas eu tout ce travail un peu en amont. Alors, dans l'écriture, laissez décanter, par exemple, si vous prenez lors d'une séance un texte, eh bien, tout ce qui est sorti, reprendre à la séance suivante, par exemple, de dire, tiens, moi, voilà ce que je retiens de ce qu'on a dit la dernière fois sur ce texte, en trois lignes, hein, en trois lignes, de façon, parce qu'il y a un besoin de décantation, hein, ça ne peut pas se faire dans l'immédiat, hein, de laisser décanter. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un texte entier, mais sur le moment, ça ne produit pas forcément le... Mais tiens, pourquoi c'est un tel qui a dit cette phrase ? C'est aussi important celui qui l'a dit que ce qu'il a dit, hein, de l'énoncé, l'énonciation, son capital. Encore une autre, oui, là-bas.
Ça peut être intéressant aussi que les membres de l'équipe méditent aussi personnellement, en couple, ce texte-là qui va être pris à la réunion une semaine après. Parce que là aussi, l'Esprit-Saint fait son œuvre.
Oui, oui.
Qui va sortir dans l'échange sera plus dense.
Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais alors, je ne vais pas parler immédiatement de ça, mais ça ressortait quand même de ce que je disais. C'est-à-dire que le texte, il y a une espèce de rumination avant, c'est-à-dire se laisser habiter par le texte. Alors, ça peut être sous forme de prière, ça peut être sous forme de lecture. Lente, et je laisse décanter en moi des mots de façon à ce que ces mots-là prennent corps en moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des mots simplement pour ça. Comme disait un de mes collègues, il faut que les mots soient habités, c'est-à-dire qu'il y ait de l'expérience derrière. Pourquoi ? Alors, ça, c'est vrai que ça peut se faire individuellement, en couple et en équipe.
A contrario, par rapport à l'épisode de la Syro-Phénicienne, on a eu une expérience, on est parti du commentaire de Frédéric Lenoir sur la Samaritaine.
Ouais.
Et c'est un texte, enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, il est tellement éclairant que, à la limite, il n'alourdit pas la parabole, enfin l'histoire, il lui apporte tout de suite son sens. Donc ça aussi, je veux dire, il y a aussi des expériences où le commentaire aide la lecture.
Oui, oui. Alors, c'est là qu'il faut... Alors, Frédéric Lenoir, circonspect.
Est-ce que c'est le média, c'est pas ça.
Non, mais oui, il y a ça, puis il y a quand même des... Enfin, dans son livre sur le Christ, il y a quand même qui sont protestants. Bon. Mais qui pour ça, l'ancien curé, donc, il connaît les affaires. Donc, qu'il ait des bonnes choses à dire sur un certain nombre de textes, je crois qu'on ne sait pas du tout à dénier. Vous pouvez même mener dans vos terres, hein, même si vous voulez, je veux dire. Il y a des très bonnes choses dans. Si on trouve du bien quelque part, il ne faut pas être manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des ouvrages qui seraient. Il y en a qui. Si vous prenez par exemple la vie de Jésus écrite par Benoît XVI, ça peut ne rien vous dire, bon, au contraire, vous allez mieux vous retrouver dans ce livre de Frédéric Lenoir. Très bien. Mais je veux dire, à un moment donné,
il faut quand même se rapporter, ça pose la question du rapport à la tradition. C'est-à-dire que vous êtes dans une tradition, voilà, qui est au bon sens du terme, c'est-à-dire une filiation, et tout ne se vaut pas. Voilà, il y a un moment donné, il y a une ligne jaune qui apparaît. Mais je dirais que si vous avez trouvé ça très bien, moi je suis tout à fait d'accord. Je connaissant pas, je ne peux pas vous donner un avis.
Est-ce que dans la pédagogie d'une équipe, dans le travail d'une équipe, est-ce qu'il y a intérêt à faire une forme de lecture continue d'un auteur, enfin de, je ne sais pas, s'envoyer toutes les épîtres aux Corinthiens, ou, en plusieurs fois évidemment, mais, est-ce que ça présente un intérêt ou est-ce qu'il vaut mieux finalement s'en remettre à la lecture du jour qui va permettre des éclairages plus variés ou des échanges plus variés? Alors, du point de vue pédagogique, enfin, voilà, du point de vue de l'animation.
Alors, ce que je ne sais pas très bien, si c'est dans vos équipes, est-ce qu'il y a des thématiques annuelles, enfin, chaque équipe se choisit son thème. Bon, alors à ce moment-là, oui, vous pourriez prendre à un moment donné, selon les problèmes et les besoins de la communauté, de l'équipe, prendre un texte qui va un peu dans... disons, qui peut vous stimuler par rapport à une question de fond qui traîne dans l'équipe. Par exemple, s'il y a des conflits dans une équipe, ça peut arriver, hein, dans une équipe il y a un conflit, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur des options politiques, ou des options sociales, ou des options professionnelles, bon. S'il y a des conflits, ma foi, prendre des actes des apôtres peut être une très très bonne lecture continue. Parce que là, Dieu sait si des conflits dès le début, et ça ne s'est pas résolu comme ça, comment dire, de manière soft, hein. Il y a eu des choses très dures, l'équipe n'arrive plus à se parler à un moment donné. Donc, je dirais que ça peut venir. Si vous réfléchissez sur la solidarité, prenez la deuxième lettre aux Corinthiens, cette histoire de la collecte de fonds pour l'église de Jérusalem qui traîne dans tout le Proche-Orient. Ça peut vous donner des idées, je dirais, sur ce que c'est que la solidarité. Il y a des textes comme ça qui peuvent servir. Si vous voulez dénoncer des scandales politiques, vous prenez Miché. Et il y a certains commentaires de sermons. Souvent, les sermons sont très intéressants. Les sermons soit des pères de l'Église, soit même de contemporains qui ont utilisé certains textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament qui sont extrêmement vigoureux dans la réflexion sur ces textes-là. Alors c'est toujours un peu décalé, je dirais que le fait que ce soit un peu décalé de votre problématique de groupe est plutôt bon, c'est-à-dire que ça vous oblige à ne pas avoir une espèce de rigidité dans les options que vous faites. La Bible a pour effet justement de vous décaler sensiblement de ce qui ferait une unité un petit peu basique, si vous voulez. Ça vous emmènera vers une unité plus difficile à faire, mais qui se construit, qui se structure à travers des oppositions. Ça, je crois que c'est le but de l'écriture, hein, c'est de vous emmener plus loin que la simple réflexion rationnelle et qu'il faut faire dans les équipes. Il faut être vraiment très rigoureux dans l'analyse des situations que vous évoquez. Et en même temps, se laisser interpeller, je ne prends bien le mot, mais enfin, se laisser accrocher par quelque chose qui va vous déplacer, vous emmener ailleurs. Ça, c'est pas mal.
Jacques, un très grand merci à toi.